L'hippocampe, notre GPS à souvenir. Dans les profondeurs de nos lobes temporaux se trouve l'hippocampe, ou plutôt les hippocampes, un à droite, un à gauche, nommés ainsi d'après leur forme, qui fait penser au petit animal marin. Le premier rôle de l'hippocampe, nous l'avons vu en examinant votre cerveau lors de cette soirée mémorable. Il est le carrefour incontournable de notre fabrique à souvenirs, le physio du club des mémoires. Ça, on l'a compris dès les années 50, en le retirant chez un patient épileptique. Bonne nouvelle, il a eu beaucoup moins de crises. Mauvaise nouvelle, il n'a plus jamais enregistré de nouveaux souvenirs. Oups! Son second rôle est tout aussi vital. L'hippocampe et une zone toute proche, le cortex entorhinal, assurent notre géolocalisation. Je traduis, nous sommes équipés d'un GPS interne. Cette découverte a été récompensée en 2014 par le prix Nobel de médecine. Trois chercheurs ont décodé les cartes neuronales qui donnent en temps réel notre position dans l'espace. Concentrons-nous sur l'hippocampe. Ces neurones, les bien nommées cellules de lieu, créent des réseaux codant notre position dans l'espace qui nous entoure. Il ne s'agit pas des coordonnées universelles comme le GPS de nos smartphones, mais plutôt de coordonnées locales, où nous nous trouvons dans une pièce par rapport au meuble ou à la fenêtre, par exemple. Si on enregistrait en temps réel l'activité électrique de ces neurones, on pourrait tracer nos trajets sur une carte. C'est ce qui a été fait chez le rat. Les résultats sont hallucinants. Pendant un trajet dans un couloir où se trouve de la nourriture, différents neurones de l'hippocampe du rat s'activent, les uns après les autres, en fonction du lieu où ils se trouvent. L'enregistrement de ces signaux électriques permet d'établir une partition neuronale. En suivant, dans l'ordre, la séquence de neurones qui se sont activés, on retrace le trajet du rat dans le couloir. Un trajet différent sera codé par une partition différente. Le plus surprenant, c'est ce qu'il se passe après le parcours. Alors que le rat est immobile et hors du couloir, son hippocampe rejoue la partition plusieurs fois, à l'envers et en accéléré. Chaque neurone s'active alors comme s'il se déplaçait. Le rat se repasse la séquence qu'il vient de vivre. On appelle ce phénomène le replay hippocampique. Devinez-vous à quoi ça sert ? Non ? Oui ? Bon, j'y vais. En réactivant de manière ordonnée et répétée ce réseau de neurones, l'hippocampe renforce les synapses et consolide la trace mnésique. Pour reprendre l'exemple de la jungle neuronale utilisée par Fabien, c'est comme s'il refaisait plein de fois le chemin initialement tracé à la machette jusqu'à en faire un sentier bien balisé. Le souvenir du trajet s'ancre dans l'hippocampe. Genius. Chez l'humain, c'est kiff-kiff. Toute la journée, alors que nous vivons innocemment notre vie et son lot de péripéties, nos cellules de lieu enregistrent en cachette nos déplacements. La nuit venue, pendant qu'on dort, les cellules de lieu se réactivent et rejouent les trajets de la journée avec les événements qui leur sont liés. Comme dans un film qu'on rembobinerait en boucle. Chaque réseau de neurones qui est réactivé se renforce alors, consolidant le souvenir des événements marquants de la journée. On reviendra plus tard sur ce qu'il se passe exactement pendant notre sommeil. Pour le moment, tirons trois enseignements importants sur notre hippocampe. La première constatation est que notre GPS et notre mémoire épisodique sont intimement liés. Les personnes atteintes d'Alzheimer présentent d'ailleurs une atrophie de l'hippocampe, ce qui explique pourquoi elles perdent leur mémoire mais aussi leur chemin. Dans un registre plus léger, vous comprenez maintenant pourquoi, quand vous avez égaré vos lunettes ou vos clés, on vous conseille de refaire le trajet, physiquement ou mentalement, jusqu'à retrouver le moment où vous les avez soigneusement rangées dans le tiroir du haut de la petite commode parce qu'à cet endroit, vous étiez sûr de les retrouver. Ou pas, en l'occurrence. Cela explique aussi une autre astuce des champions de la mémoire. Imaginez un trajet familier et disposez en différents endroits du parcours les éléments à retenir.
S'il est évident qu'utiliser des techniques de mémorisation est à la fois un plaisir et un avantage cognitif certain, il est alors d'autant plus intéressant de connaître l'origine de ces méthodes. Michel nous éclaire sur les raisons liées directement au fonctionnement du cerveau et, pour ma part, avant de vous expliquer comment utiliser la puissante technique du palais mental, que l'on appelle aussi la méthode des lieux, je vais vous raconter son histoire. Nous sommes aux environs de 530 avant Jésus-Christ, pas très loin de l'archipel des Cyclades où est né notre protagoniste, le poète lyrique Simonide de Céos. Simonide vit en Thessalie, à la cour des princes. Il se trouve là-bas depuis que les derniers descendants du tyran d'Athènes, Pisistrate, furent bannis d'Athènes. Lors d'un banquet, auquel Simonide était invité par une famille d'aristocrates nommée les Aleades, le toit s'effondra sur l'ensemble des convives. Un seul survivant, Simonide. Au-delà du drame, un autre problème se profile. Les familles n'arrivent pas à reconnaître les défunts mutilés. Quel corps correspond à quelle personne? C'est important et les rites funéraires doivent commencer. L'histoire raconte que Simonide fut capable de tous les nommer, en fermant les yeux, en se déplaçant dans la pièce détruite et en se souvenant ainsi de la place de chaque personne autour de la table. Il revivait la scène. Il ne le savait pas, mais il était en train de stimuler son hippocampe. Une parfaite visualisation de cette pièce, qu'il connaissait par cœur, et dans laquelle étaient venus se greffer les invités. C'est ainsi que nous avons la première trace dans l'histoire de ce formidable outil qu'est le palais mental. Pour vous donner une idée, il s'agit de visualiser un lieu mentalement pour y stocker des informations. Au Moyen-Âge, de nombreux pratiquants de cette méthode utilisent des églises et des monuments riches en salles qu'ils visitent plusieurs fois avec attention pour se créer leurs palais mentaux. Concernant les traces écrites, on peut trouver quelques références chez des auteurs comme Cicéron ou Quintilien qui en parlent en même temps qu'ils abordent la rhétorique. Pas de hasard, il est fréquent d'étudier l'art de mémoriser lorsque l'on apprend l'art de l'éloquence verbale. En effet, Cicéron et Quintilien découpaient leurs discours en plusieurs parties et ils associaient chaque partie à une image forte. Ces images fortes étaient ensuite stockées dans leurs palais mentaux. Il leur suffisait de se balader mentalement dedans pour savoir quelle était la prochaine étape de leur discours. C'est d'ailleurs dans l'ouvrage d'un auteur inconnu au 1er siècle avant Jésus-Christ, Rhétorique à Hérénus, que l'on trouve pour la première fois la méthode du palais mental en détail. Et c'est seulement au XIIIe siècle, à la lecture des grands auteurs de l'Antiquité, que le palais mental refait surface et se transmet jusqu'en Chine au XVIe siècle par le missionnaire Matteo Ricci dans un ouvrage intitulé « Un traité de mnémotechnie ». Matteo était venu introduire le christianisme, il y a surtout introduit la mnémotechnie. Mais voilà qu'à cette même époque, les puritains anglais se fâchent. Il faut abandonner cette technique, cette horrible manière de penser. Parce que pour créer des images dans leurs palais mentaux, les pratiquants font appel à des images loufoques, farfelues et parfois obscènes. Désolé, mais le cerveau les retient mieux. Il retient d'autant plus ce qui l'a fait rire ou ce qui l'a choqué. Les fameuses émotions dont nous vous parlerons dans le chapitre suivant. Cela ne signera pas la fin des palais mentaux dont l'utilisation va pourtant se perdre, principalement parce que l'art de la mémoire ne fut plus enseigné dans les écoles. Au XIXe siècle, seuls les orateurs et les conférenciers faisaient circuler cette connaissance entre eux. Il s'avère que cette technique, pourtant simple à appréhender, se transmettait parfois sous le manteau en échange de fortes sommes d'argent. Et oui, vous pouviez passer pour un génie capable de tout retenir avec cette astuce. Et le plus drôle, c'est que vous reteniez vraiment tout. Astuce 4. Comment utiliser un palais mental? Cette méthode, très utilisée donc par les champions de la mémoire, ne requiert en réalité que peu de travail. Ne la sous-estimez pas pour autant, les résultats qu'elle procure sont impressionnants. Souvent confondu avec la mnémotechnie, le palais mental utilise les espaces virtuels cartographiés par vos hippocampes pour y stocker de l'information supplémentaire. En utilisant votre imaginaire, vous allez changer des détails dans le souvenir que vous avez d'un lieu pour exploiter votre mémoire sémantique. Ainsi, comme pour le souvenir de la soirée de Michel, vous n'aurez pas beaucoup d'efforts à fournir pour vous rappeler des détails principaux. Le palais mental est un outil que vous allez ensuite adapter à vos besoins. Comme pour toutes les méthodes, il y a plusieurs phases divisées en deux parties. Pour commencer, vous allez devoir construire votre palais et ensuite l'utiliser. 1. Choisir le lieu. Si certaines personnes décident de créer un lieu imaginaire de toutes pièces, sans référence à ce qui existe dans le monde réel, Il s'agit là d'une exception et d'un exercice difficile. Oubliez la série Sherlock, dans laquelle le héros construit un espace mental en trois dimensions, et réfléchissez plutôt à un endroit que vous connaissez sur le bout des doigts. Cela peut être une pièce, plusieurs pièces, une maison, un appartement, etc. La seule contrainte est que ce lieu ne doit vous demander aucun effort particulier quand vous essayez de vous rappeler comment il est agencé. Pour commencer, je vous recommande de visualiser votre chambre, sûrement l'un des endroits que vous connaissez le mieux. Fermez les yeux quelques secondes ou quelques minutes. Visualisez votre chambre sous toutes les coutures. Chaque détail doit vous revenir. Imaginez que vous vous promeniez dedans. Dans quelques étapes, vous serez capable de vous y déplacer mentalement et d'y déposer ces images. Lorsque vous repenserez à votre chambre, ces images vous reviendront automatiquement et dans l'ordre que vous aurez choisi. Exemple. Je visualise ma propre chambre. Pour le moment, je me promène simplement dedans, dans mon esprit. J'essaie de regarder mentalement chaque meuble, chaque élément de décoration, chaque détail qui me revient. J'ouvre les tiroirs et les placards. Cette première phase ne doit pas demander d'effort. Je laisse venir ces souvenirs à moi. Si je doute sur ce que contient un tiroir, alors je laisse tomber. Le but n'est pas d'apprendre ce qu'il y a dans ma chambre, mais bien de faire l'état des lieux de son souvenir dans ma mémoire. 2. Choisir les bons spots. Ce que j'appelle un spot est un endroit remarquable de votre chambre qui vous servira de zone de dépôt. Ce sont les points clés de la pièce qui vous serviront à déposer des images. Ces spots doivent être facilement identifiables, facilement visualisables. Cela peut être un meuble, une architecture de la pièce, un objet de décoration qui reste toujours au même endroit, un miroir, etc. Vous devez identifier une dizaine de spots possibles dans votre chambre. N'hésitez pas à les noter sur un papier et même à faire un petit plan sommaire. Exemple. Lorsque je visualise ma chambre, je vois clairement le lit, une tablette en bois, ma fenêtre, un réveil en forme de tête de lapin, le mur de photos à ma tête de lit, la commode blanche, la petite table ronde en bois où je pose mon café, le tiroir sous le lit, la porte de la chambre et enfin mon grand lustre blanc. Pour terminer cette phase de préparation, vous allez maintenant imaginer un parcours mental dans cette chambre. Vous devez avoir un point de départ, puis effectuer un chemin logique de spot en spot jusqu'au dernier. Le plus simple est d'entrer dans le lieu, puis de faire une boucle dans le sens horaire ou anti-horaire. Si vous êtes en train de dessiner un plan sur une feuille, alors tracez le chemin que vous faites, de spot en spot, et indiquez avec une flèche dans quel sens vous allez. Exemple. Je choisis de rentrer par la porte de ma chambre, spot 1. En partant par la gauche, je vois le tiroir sous mon lit. Spot 2. Mon lit. Spot 3. Le mur de photos. Spot 4. La tablette en bois. Spot 5. Le réveil lapin. Spot 6. La fenêtre. Spot 7. La commode blanche. Spot 8. La table ronde. Spot 9. Et enfin, je lève les yeux pour apercevoir le lustre. Spot 10. C'est fait. Vous avez créé un palais mental en deux étapes. Alors maintenant, voyons comment s'en servir et dans quel but. 3. Utilisez le palais. Votre palais va vous servir à stocker exclusivement des images. Cela peut vous sembler limité, mais vous verrez dans un autre chapitre des techniques, comme celle de la table de rappel, qui permettent de tout transformer en images, même un numéro complet de carte bleue. Les images peuvent être au premier degré, comme une courgette pour penser à une courgette, mais aussi au second degré, comme une guillotine pour penser à la Révolution française. Commençons par une utilisation au premier degré. Admettons que vous vouliez mémoriser une liste de courses classiques. Des œufs, des fruits, du lait, du café, de la mayonnaise et du papier toilette. Fermez les yeux et rentrez dans votre palais mental. Suivez le parcours que vous avez défini et à chaque spot que vous rencontrez, déposez l'un des articles de la manière la plus marquante possible. Exemple. Je rentre par la porte, spot 1, et j'imagine que quelqu'un a jeté des œufs dessus. Je vois vraiment des œufs dégoulinés partout sur elle, des traces de coquilles collées, etc. Je me déplace vers le tiroir sous mon lit, spot 2, et j'y trouve des petits bonshommes qui vivent dedans. Ils ont installé un verger et sont en train de cueillir toutes sortes de fruits. Je déplace ma pensée sur mon lit, spot 3, et j'y trouve une vache, sous ma couette, en train de dormir. En continuant mon parcours, j'aperçois le mur de photos, spot 4, où chaque personne a les yeux grands ouverts. Ils sont tous crispés, tenant une tasse de café, dont ils ont eu l'air d'abuser, à la main. Je passe à la tablette en bois, spot 6, où est empilée une véritable pyramide de pots de mayonnaise, tellement haute que la planche est sur le point de céder. Enfin, puisque je n'ai que 7 articles à mémoriser, je regarde le réveil en forme de lapin, spot 7, et je constate avec dégoût qu'il a fait ses besoins. À partir de maintenant, et pour une durée plus ou moins longue, à chaque fois que je vais me déplacer dans mon palais mental, ces images me reviendront. C'est automatique. D'ailleurs, vous souvenez-vous de qui se trouve dans mon lit? Sous la couette? Oui. Je sais donc que je dois acheter du lait. Ces images resteront tant que je ne les remplacerai pas par d'autres, ou qu'elles s'effacent d'elles-mêmes si je n'utilise pas mon palais mental pendant longtemps. La fameuse courbe de l'oubli. Pour une utilisation au second degré, il suffit d'avoir des images représentant le point de départ de quelque chose. Que faire si vous devez réaliser un discours, une présentation, une conférence, en plusieurs étapes? Vous pouvez imaginer une image symbolisant chacune des étapes, comme Cicéron en son temps. Ces images, que vous déposerez sur les spots, serviront de point de départ pour vous rappeler quelle est l'étape suivante de votre prise de parole. C'est un exemple parmi tant d'autres. Le palais mental est un outil et les limites de son utilisation sont vos propres besoins. 4. Aller plus loin. Lorsque vous serez devenu un professionnel aguerri du palais mental, vous allez vous poser deux questions. Souvenez-vous d'une seule chose, les réponses sont ici. Comment vider son palais pour s'en servir de nouveau? C'est vrai que si vous avez déposé des images très récemment, elles auront laissé des traces dans votre palais. En général, le simple fait d'imaginer de nouvelles images fortes sur les spots suffit à écraser l'image qui s'y trouvait précédemment. La raison en est simple, votre nouvelle image est plus récente et donc moins fragile que la précédente. Si vous souhaitez réellement nettoyer votre palais mental, vous pouvez retourner dedans et visualiser une personne qui fait le ménage et qui enlève ou nettoie ce qui s'y trouve. En faisant cela, vous créez une logique pour votre esprit. Puisque quelqu'un est venu nettoyer, alors il n'y a plus rien. Cela va favoriser le reset de vos spots. La meilleure option, selon moi, est de posséder plusieurs palais mentaux prêts à l'emploi. Un grand de 50 spots et plusieurs petits de 10 à 20 spots. En fonction de vos besoins, vous pourrez utiliser l'un ou l'autre. Une autre manière de procéder, que j'utilise depuis plus de 20 ans, consiste à créer un nouveau palais quand vous devez stocker des informations sur le moyen ou long terme. Croyez-moi, cet effort d'organisation de votre mémoire ne sera jamais vain.
Souvenez-vous, avant que vous ne vous baladiez dans votre tête, nous étions en train de tirer 3 enseignements. Nous venions de voir à quel point notre GPS interne et notre mémoire épisodique étaient liés. Deuxième enseignement, notre rat, en plus de rejouer la partition de son trajet après, s'est mis à la rejouer avant. Une fois le couloir et les points de nourriture repérés, une première fois, son hippocampe a joué la partition dans l'ordre, cette fois avant de se déplacer. Un pré-play hippocampique anticipant le trajet à venir. Ainsi, les réseaux activés pour se projeter dans le futur sont quasi les mêmes que pour se rappeler le passé. Notre mémoire nous sert donc non seulement à évoquer le passé pour comprendre le présent, mais aussi à anticiper l'avenir. Troisième observation, non content d'avoir des cellules de lieu, l'hippocampe posséderait aussi des cellules de temps, c'est-à-dire des neurones qui s'activent à un moment donné. Le « où » et le « quand » de nos souvenirs sont donc codés directement dans l'hippocampe. On comprend de mieux en mieux son rôle clé dans le film de notre mémoire épisodique. J'espère que ce voyage au cœur de notre fabrique à souvenirs vous aura éclairé sur les processus à l'œuvre dans notre cerveau. Mieux que vous en aurez retenu certains. En résumé, et parce que pour bien mémoriser, il faut et comprendre le sujet et répéter, dans notre cerveau, des réseaux de neurones se branchent et se débranchent sous l'influence de ce que l'on vit ou pense à chaque instant. Cela laisse des traces mnésiques qui sont fragiles au début. Certes, c'est un peu schématique, mais ça pose les bases pour comprendre la suite et les astuces de Fabien. Mémoriser est un long processus de transformation de ce fragile souvenir initial, rythmé par deux faces cachées de la mémoire, les émotions et l'oubli. Pas d'émotion, pas d'oubli, cela signifie pas de mémoire. Trop d'émotions, trop d'oubli, cela signifie des problèmes de mémoire. À suivre.